Chapitre 13. L'arche et le chariot neuf. Le trait caractéristique de ce chapitre est omis au chapitre 6 du deuxième livre de Samuel. C'est le désir de David, une fois la royauté établie, de réunir le peuple tout entier, non pas autour de lui-même, mais autour de l'arche, trône de Dieu sur lequel se trouvait le propitiatoire. On voit ici, versets 1 et 2, quel soin le roi prend à rassembler Israël, avec les sacrificateurs et les lévites, pour ramener l'arche de Kiriath Jéharim. Il lui faut les adorateurs de l'Éternel au complet, et il ajoute « Nous ne l'avons pas consulté au jour de Saül », verset 3. Dans quel oubli l'arche n'était-elle pas tombée sous le règne précédent? Depuis son retour d'entre les Philistins, on ne la voit paraître que pour prouver en quelle petite estime Saül la tenait. 1 Samuel 14, versets 18 et 19. En vue du grand sujet qui va dominer la fin de ce livre des chroniques, le rôle de la sacrificature dans ses rapports avec la royauté, il fallait rappeler ici les particularités du retour de l'arche et la faute commise par David. On voit à cette occasion le souhait ardent de David de trouver un lieu de repos pour le trône de Dieu, et combien il désirait rencontrer chez le peuple une communion complète sur ce point. Ce désir venait de Dieu. Cependant, quelles que soient les vues de la grâce, l'homme se montre faible pour les accomplir, et Dieu prend soin de nous le faire constater ici. S'il en était autrement, nous trouverions dans les chroniques un David infaillible, tandis que Dieu nous y montre ses conseils infaillibles, se réalisant en vue de Christ dont David est le type. Et si Dieu ne mentionnait ici aucune des fautes de David, ce serait de fait un déshonneur pour Christ, car lui seul doit apparaître comme l'homme parfait, le roi des conseils de Dieu. Toutefois, Dieu choisit, pour notre instruction, l'un des exemples les moins marqués des errements de David. Il était rempli du désir de servir Dieu, d'associer le peuple tout entier à la glorification de son trône. Sion, siège de la royauté selon les conseils de Dieu, était aux yeux de David le seul lieu de repos pour l'arche. Tout le service sacerdotal devait avoir cette arche pour centre, et sa présence était la base assurée de l'établissement du royaume selon Dieu. David reconnaissait et proclamait ces choses. Une seule manquait, insignifiante en apparence, très sérieuse en réalité, et qu'une cruelle expérience allait enseigner au roi. Le grand déploiement de joie et de louange qui accompagnait le retour de l'arche ne pouvait remplacer l'obéissance à la parole de Dieu. La première de ces choses était excellente, la seconde nécessaire et obligatoire. David aurait pu excuser la manière dont il ramenait l'arche par le fait que les fils de Guershom et de Merari avaient aussi des chariots pour transporter le tabernacle au désert, à l'exclusion, il est vrai, des ustensiles du sanctuaire. Et de plus, Dieu ne s'était pas opposé à la méthode des Philistins quand il ramenait l'arche sur un chariot neuf et ne leur en avait pas même manifesté son déplaisir. Sans doute les Philistins, idolâtres et étrangers aux prescriptions de la loi, avaient agi au plus près de leur conscience, sans aucune pensée de désobéir à la parole qu'ils ne connaissaient pas. Mais jamais la foi n'agit d'après les lumières de la conscience, et David aurait dû le savoir. Elle obéit toujours à la parole de Dieu et en est inséparable. Ce manque de mémoire, et plus probablement encore le peu d'importance qu'il donnait à chaque iota de l'Écriture, eurent deux graves conséquences. La première pour Uzza, frappé, parce que les bœufs avaient bronché, provoquèrent de sa part un geste inconsidéré et profane. La seconde pour David, qui perdit tout ce qui remplissait son cœur peu de moments auparavant, la confiance, la joie, la louange, et les vit remplacés par la peur, les récriminations, l'irritation contre Dieu et l'amertume. Mais la faute du roi et les conséquences qu'elle eut pour son état moral ne changeait rien à l'accomplissement des conseils de Dieu. L'Éternel avait choisi Sion. Il l'avait désiré pour être son habitation, son repos à perpétuité, et en dépit de tout, il accomplit ses desseins de grâce. David est témoin des bénédictions accordées à Obed-Edom quand ce dernier aurait pu encourir, comme Usa, le courroux de l'Éternel à la moindre faute. Le roi apprend ainsi, par expérience, que le Dieu qui venait de se révéler comme juge, s'il est un Dieu saint, est un Dieu de grâce, sujet capital des chroniques, mais il est amené à comprendre que c'est un grand mal d'avoir peu d'égard pour sa parole. Les chrétiens pensent-ils à cela quand, dans leur zèle, souvent très réel, ils recourent pour servir Dieu à toutes sortes de moyens humains, semblables aux chariots neufs, et, sans aucun scrupule, enfreignent les préceptes scripturaires souvent bien autrement clairs et importants que celui de faire porter l'arche sur les épaules des sacrificateurs? Plus on est près de Dieu, comme David, plus on s'expose au jugement si l'on ne tient pas compte de sa volonté exprimée dans la parole. Consultons-la donc partout et pour tout. Familiarisons-nous avec elle dans un esprit de dépendance et de prière, afin de ne pas contrevenir à ses directions. Seulement, souvenons-nous que, plus nous la connaîtrons, plus aussi nous serons responsables de nous y conformer en tout point. Dieu peut tolérer l'ignorance, bien qu'elle aussi soit péché et nécessite le sacrifice, Lévitique 5, versets 17 à 19, mais il ne tolère pas la désobéissance chez ceux qui l'honorent de ses faveurs et la punit tôt ou tard.